Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Point de vue, le podcast de la liberté. Je suis François Rossier et avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023. Je vous la souhaite aussi fructueuse que ces 12 premiers jours pour Fribourg-Gotteron. Victoire à Kloten contre Ambry, défaite à Lausanne et nouvelle victoire contre Ajoie mardi, 3 sur 4 donc pour Gotteron. Et désormais une place au-dessus de la fameuse barre avec un cinquième rang qui vaudra dans quelques semaines un ticket pour les playoffs, mais on n'en est pas encore là. Les sourires sont néanmoins de retour à la BCF Arena où tout roule, fête de tir contre Ajoie avec 7 buts. Et nous nous trouvons en ce moment dans cette BCF Arena pour accueillir Sandro Schmitt. Salut Sandro.
Bonjour tout le monde.
Enfin pardon, je dois dire monsieur le capitaine, monsieur le capitaine ad intérim.
Non, pas du tout.
C'était quand même un moment particulier pour toi d'avoir ce C en l'absence de Julien Sprunger sur le maillot.
Ouais, c'était assez spécial. Ouais. C'est sûr que, en fait, en Champions League, j'avais déjà eu une fois, mais c'est quand même différent si après dans le championnat. Mais ouais, j'ai déjà dit plein de fois qu'on sait tous qui est le vrai capitaine, et puis moi, j'essaie juste de le remplacer le mieux possible.
On va revenir notamment sur ce moment un peu spécial et puis sur plein de choses de ta carrière. Avant toute chose, eh bien, j'accueille Pierre Chouvet. Salut Pierre.
Salut François, ciao Sandro.
Début d'année 2023, tout en sobriété pour toi.
Eh oui, tu fais référence au dry January.
Eh oui, j'ai appris ça. Que
fructueux.
Tu avais pris des bonnes résolutions.
Eh oui, je les tiens pour l'instant. On verra jusqu'à quand.
On fera le bilan dans le prochain podcast. Les années passent peut-être, mais en tout cas, le podcast conserve ses bonnes habitudes avec ses fameux trois thèmes. Aujourd'hui, on va se pencher, ça c'est pas nouveau, sur les étrangers de Gotteron, mais qui étaient longtemps un peu le flop et qui sont désormais au top. On va s'interroger sur cette légion étrangère, savoir si elle peut finalement emmener les dragons jusqu'au sommet. On va évidemment parler d'Andrei Bykov. Faut-il prolonger le contrat de Bykov? Et puis, une question qui va nous permettre de nous projeter un peu plus sur l'avenir de Gotteron. On le sait, l'équipe est un peu vieillissante. Sprunger et Diaz viennent de fêter leurs 37 ans. Berra, ses 36. Gunderson, lui, va déjà sur ses 38. Et puis, on a Sandro Schmitt, 22 ans, en face de nous. Donc, Gotteron doit-il construire autour de Sandro Schmitt? Ce sera notre troisième thème. Alors, je propose de commencer cette légion étrangère, Sandro. Voilà, elle a mis du temps quand même à s'adapter un petit peu au championnat de Suisse. Il y avait plus d'étrangers cette année dans toutes les équipes. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans le vestiaire? Comment tu as trouvé cette intégration? Alors, il y a Dearne Gunderson qui était là, mais il y avait quand même quatre nouveaux à intégrer.
Ouais, je pense que c'est jamais facile aussi pour les étrangers à intégrer une équipe, surtout si c'est quatre nouveaux. Ouais, ça prend du temps, mais. Ouais, comme vous avez dit, au début, ils avaient un peu de temps d'adaptation, mais maintenant, ils sont. Ouais, on a vu que ces derniers matchs, ils étaient vraiment forts. Puis on espère que, ouais, ils peuvent continuer comme ça. C'est pas qu'on ne croyait pas en eux. Je pense qu'on sait tous que c'est des très bons joueurs. Et puis, ouais, ça fait plaisir pour eux que ça a marché enfin.
Les cinq nouveaux sont nordiques. Il y a notamment trois Suédois qui venaient, alors pas tous, mais qui avaient fait en tout cas une saison en Suède, qui ont dû s'adapter peut-être à la spécificité du hockey suisse. Est-ce que toi qui as joué là-bas, alors en junior, mais tu sais qu'il y a eu une différence entre le hockey suédois et le hockey suisse, et que tu peux comprendre aussi que, par exemple, pour un Sarensen ou pour un Delarose, il a fallu aussi s'adapter à cette nouvelle réalité?
Oui, je pense que c'est égal où tu joues en Europe, si tu joues en Slovaquie, en Tchéquie, en Finlande, en Suède, en Russie, c'est tous des championnats différents par rapport à notre championnat. Mais après, ouais, comme j'ai dit avant, c'est des bons joueurs, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils peuvent être forts sur tous les patinoires. Et puis, ouais, peut-être si on compare avec la Suède, que ouais, c'est peut-être comme ça, c'est un jeu un peu différent. Eux aussi disent que tu as un peu plus de place, un peu plus de temps ici qu'en Suède. Je pense qu'en Suède, c'est plus structuré, ça se dit comme ça.
C'est juste.
Ouais, tu as un peu moins de temps. Les défenseurs sont assez agressifs, c'est ce que moi j'ai entendu. Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'ai jamais joué là-bas en pro, mais ouais, c'est ce qu'ils disent. Et puis, je pense que, ouais, on voit maintenant que, ouais, ils ont enfin pu Ouais, puis s'améliorer un peu dans notre championnat aussi, et puis s'en habituer un peu plus maintenant.
C'est la seule raison qui explique un peu ce début, cette première partie de saison qui était un peu moins bonne. On ne va pas dire qu'elle était mauvaise, mais un peu moins bonne que les précédentes, où il y a beaucoup d'attentes à Fribourg parce qu'il y a eu des bonnes saisons. C'est uniquement un peu cette adaptation d'étranger, ou pour toi qui vis ça de l'intérieur, il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi ça a été un peu pénible à se mettre en route, on dira.
Moi, je trouve que c'est toujours beaucoup trop facile à dire, ouais, c'est à cause des étrangers qu'on n'était pas fort. Je pense que c'est toute une équipe qui... Ouais, qui doit fonctionner. Et puis à la fin, oui, peut-être les étrangers, ils ont plus de poids maintenant, vu qu'on est 6 par équipe, eux, ils ont encore plus de temps de jeu. Ouais, c'est clair qu'eux, ils tirent un peu l'équipe. Mais après, je pense qu'avec Christophe Berchi qui est venu aussi, on a un joueur aussi d'un calibre d'étranger que, ouais, il lui a fallu un peu de temps aussi pour s'adapter. Mais je pense que, tout de suite... C'était pas facile, comme j'ai dit avant, il faut un peu de temps d'adaptation pour tout le monde. S'il y a une nouvelle équipe, ça prend du temps. Maintenant, on avait eu beaucoup de changements et puis ça fait plaisir qu'enfin, on a un peu trouvé notre rythme. Et puis, ouais, on espère qu'on peut garder ça le plus long possible.
Les temps de jeu aussi sont peut-être mieux répartis que la saison passée, avec trois premières lignes qui peuvent être considérées comme première ligne. Avec une quatrième ligne qui a aussi les moyens de jouer quand même plus que 10 minutes. Ça change aussi évidemment la donne pour tous les joueurs, pour les joueurs étrangers qui aiment aussi avoir beaucoup de responsabilités. Ces 6 étrangers, ça a changé beaucoup de choses.
Oui, c'est comme j'ai dit, ça met un peu plus de poids encore sur les étrangers, vu qu'eux, ils jouent encore plus, et puis ils sont plus. Mais ouais, pour tout le monde, c'est un peu un changement, comme tu dis. Mais après, je trouve que même l'année passée, on a eu 3 lignes qui ont pu être des premières lignes aussi. Puis je pense qu'avec la 4e ligne qu'on a maintenant ces dernières années, avec Valzi, avec Mauro, avec Rossi ou Bikoff, tous ces gens, eux aussi, c'est des joueurs qui peuvent jouer plus haut. Je pense que ça montre que le championnat, il est très, très élevé et puis il est très, très fort. Ouais.
Tu as senti une vraie différence de niveau sur la glace avec l'arrivée de 2 étrangers de plus par équipe?
Oui et non, c'est dur à dire comme ça, de sentir une différence, c'est assez dur parce que t'es dans le match, tu joues ton match, t'essayes de le faire le mieux possible et puis tu regardes pas trop, tu sens pas trop ça, mais vu qu'on si on regarde tu regardes un peu les highlights, tu regardes un peu les matchs, je pense que les étrangers ils sont encore, ils marquent plus et puis ils ont plus d'influence dans le jeu. Et puis je pense que c'est normal, vu qu'il y a plus. Et puis c'est aussi, il faut dire que vu que la KHL, elle est un peu... il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. C'était vraiment une bonne ligue. Et puis ils sont tous venus chez nous, j'ai un peu l'impression. Et puis c'est clair que ça élève le montre de... le jeu en Suisse, ouais.
Tu disais que les étrangers marquaient plus, ça se voit dans toutes les équipes en termes de pourcentage de buts marqués par les étrangers. C'est aussi le cas à Fribourg maintenant, depuis le début de l'année. François, tu as quelques statistiques à nous donner.
Non, mais je voyais sur les 7 derniers matchs, là, Gotteron, donc on a remporté 6. Ce qu'on voit, c'est que les étrangers, comme on le disait avant, ont vraiment ce rôle d'étranger. Sur les 9 meilleurs marqueurs de Gotteron, il y a les 6 étrangers qui se trouvent dans ces meilleurs marqueurs. Alors évidemment que avant avec Vainio, ça faisait un en moins parce qu'il n'a pas ce rôle offensif, mais c'est quand même montré qu'il tourne. Et puis aussi, ça marque beaucoup plus ces temps pour Gotteron. Avant Noël, les matchs juste avant, c'était Desharnais qui était le meilleur avec 5 points sur les 7 derniers matchs. Et maintenant, il y a 9 joueurs à 5 points ou plus sur les derniers matchs. Donc vraiment, il y a toute l'équipe qui a trouvé un peu cette confiance. On sent aussi, et des fois aussi dans les discours de Christian Dubé après les matchs, Sandro, que Gotteron marche quand même pas mal à l'envie, à la volonté. Des fois, est-ce que vous avez pensé ou inconsciemment joué un peu trop facile? On l'a vu encore mardi, premier tiers contre Ajoie, qui est pas très bon. Il élève la voix et puis tout d'un coup, quand Gotteron décide de jouer, on voit que vous êtes vraiment et clairement une bonne équipe de ce championnat et que c'est un peu des fois cette fin qui manquait peut-être dans certains matchs cette saison, alors que les dernières années vous étiez plutôt dans une dynamique. Là maintenant, des fois il faut chercher pas la motivation, mais un peu l'envie de
la flamme.
Voilà.
Moi je peux que parler de moi-même. Je pense que ça devrait pas être comme ça, que le coach il rentre dans le vestiaire et puis il lève la voix et puis après qu'on commence à jouer. Mais des fois, c'est vraiment dur à expliquer. Les soirs, tu commences mal, t'es mal dans le match. Ouais, il faut quelque chose pour te réveiller un peu. Et puis après, ouais, avec tous les nouveaux joueurs qu'on a, c'est tous des nouveaux caractères aussi. Et puis, ouais, si on regarde l'année passée, on a perdu un Fourry, on a perdu un Brodin, qui sont vraiment des joueurs qui tirent l'équipe avec leur envie, avec leur volonté pour gagner ces matchs. Et puis, peut-être avec quelques nouveaux étrangers qu'on a, je ne dis pas qu'ils ne veulent pas gagner, pas du tout, mais c'est peut-être un peu, ouais, eux, les joueurs un peu plus skills, je dirais, qu'ils ont un peu besoin de ces gars à côté qui bossent. Et puis, eux, ils bossent aussi parce que, ouais, c'est un peu, je ne dis pas que c'est vraiment ça, mais moi, c'est une possibilité pourquoi on a un peu dû se trouver là. Et puis maintenant, je pense que si on regarde les derniers matchs contre Lausanne aussi, on a fait un bon match. Ouais, je trouve qu'on a tout donné, on a vraiment on a montré cette envie. Et puis, on a perdu, mais ça arrive aussi. Mais je trouve que, ouais, si on regarde sur ces derniers matchs, aussi sur le début de cette année, il y avait plus de volonté, je trouve.
On s'était un tout petit peu éloigné de la question de base quand même, qui était de dire est-ce que cette légion étrangère peut finalement, j'ai mis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours été très tendre à ce micro avec certaines de leurs sorties à ces nouveaux renforts, mais est-ce qu'ils peuvent emmener Gauthieron jusqu'au sommet? Alors, est-ce qu'il faut parler de titre, mais en tout cas de play-off, de demi, peut-être même de finale, puisque l'idée c'est toujours de faire mieux d'une année à l'autre. Je pose d'abord à toi la question, Pierre. Tu as l'impression qu'ils sont dans l'ancée et que c'est les étrangers, ouais, qu'il fallait?
Mais tout d'abord, je dirais qu'on a quand même toujours dit que c'était des étrangers qui avaient de la qualité intrinsèquement, mais que voilà, on ne trouvait pas encore vraiment ce qu'on pouvait espérer chez chacun d'eux. Là, en ce début d'année, en fait, il y a vraiment un duo qui crève l'écran. Bah, c'est Sørensen et puis De La Rose. Parce que si on regarde, ben, Dernay, il a toujours quand même eu ce rythme. Je pense qu'il n'était pas dans le trou. Puis maintenant, il est ressorti. Dernay a une certaine régularité. Gunderson aussi. Kokkanen, on peut encore se demander si un jour il trouvera un peu cette constance qui manque dans son jeu. Rask sera surnuméraire contre Bienne. Donc, pas vraiment lui sorti de la gonfle, même s'il a eu une très bonne fin d'année de 2022 en décembre, je trouve, sur les derniers matchs. On pouvait un peu voir quel genre de joueur il pouvait devenir. Mais là, c'est clairement l'éclosion un peu de Sørensen qui a emmené De La Rose dans son sillage. Il lui a offert quand même quelques buts faciles. Alors De La Rose aussi marque le penalty. Donc il y a aussi quand même, on sent du talent chez ce joueur, ce dont on pouvait peut-être un peu douter en début de saison. Mais ouais, j'ai plutôt l'impression que là, c'est un duo qui émerge et qui fait du bien à Fribourg, sachant qu'il y avait déjà quelques garanties avant. Et puis après, à la question, est-ce que ces étrangers peuvent amener Fribourg très haut? Je pense que oui, il y a de la qualité, mais il faut continuer finalement à développer un peu ces joueurs qui se cherchent encore un peu. Je pense là, bah, Kwakanan, Arask, Vagnou, on sait ce qu'il vaut. Il a été un peu écarté, mais malgré lui, parce qu'il a été blessé au mauvais moment. Il y a des réponses en plus, mais il y a encore des questions, pour résumer mon long propos, très long propos.
Très complet aussi, merci. Sandro, toi, peut-être en comparaison avec et les autres équipes et l'année passée, puisqu'on ne va pas retourner trop loin, cette équipe de Gauthieron, comme elle a été construite, comme elle évolue aussi maintenant, alors elle est dans une bonne phase, donc on a plutôt tendance à dire que c'est bien parti. Comment toi, tu vois ça? Est-ce que vraiment, il y a toutes les pièces et c'est une année où vraiment c'est possible d'aller loin, voire très loin?
Oui, oui. Je pense que oui, les dernières années, on avait des bonnes équipes aussi, mais c'est comme Pierre, il a dit, ouais, l'équipe, elle doit évoluer un peu encore. Je trouve que, ouais, on peut s'améliorer tous encore un peu, aussi comme équipe, mais c'est clair que la qualité, elle est là, ouais.
Mais à quel endroit, par exemple, tu trouves que vous êtes un peu meilleur cette année? Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous rapproche de cette finale, par exemple, si on veut franchir une étape?
Ouais, comme j'ai dit, on a eu beaucoup de nouveaux joueurs, mais après, on a aussi eu des joueurs qui sont là, ça fait un moment. Puis je pense que c'est vraiment bien que le groupe au milieu, il est toujours resté un peu la même chose. Et puis, ouais, ça aide aussi aux nouveaux joueurs. Et puis je pense que, ouais, c'est notre force, qu'il y a quand même des joueurs qui sont là à un moment. Et puis, on peut aider les autres. Mais, ouais, c'est dur à dire dans quel comportement on doit s'améliorer encore. Je pense qu'il y a vraiment tout à améliorer. Le championnat, il est long encore. Et puis, ouais, on va se trouver encore mieux, je pense.
Ce qui est intéressant, puis d'ailleurs, Sandro, j'aimerais bien un peu t'entendre là-dessus, c'est que je trouve que ces deux, trois dernières années, on avait l'impression que Fribourg, elle a plafonné en saison régulière, dans le sens où vous étiez à un certain niveau de performance, puis que quand vous arriviez en play-off, on ne savait pas trop si vous alliez pouvoir encore passer un palier. Puis là, finalement, on est aux deux tiers de la saison, vous êtes dans le top 6, un peu moins que le deux tiers, enfin, environ. Mais qu'il y a une vraie marge de progression partout et qu'on sent que vous, là, vous pourriez vraiment monter en puissance en play-off.
Ouais, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que tu dois être au top à la fin de la saison, à la fin des play-offs. Et puis... ouais, peut-être là, ouais, t'as encore le coach aussi, il a encore un peu de temps à trouver ses lignes. Je pense qu'on est toujours un peu... on a trouvé quelques lignes, enfin quelques joueurs qui marchent bien ensemble, mais quand même pas le complet encore. Et puis, ouais, c'est aussi des trucs comme ça que moi, je trouve que c'est pas grave que c'est pas encore fait maintenant. Parce que comme tu dis, on n'a même pas joué deux tiers encore de cette saison. Et puis, comme j'ai dit, on doit être au sommet, ouais, au top de notre performance à la fin... à la fin de la saison, à la fin des playoffs.
On pourra juger un peu mieux encore Gautheron ces prochains jours, parce qu'il y a des jolis tests avec deux fois Bienne, Rapperswil et deux fois Zug, là, avec cinq matchs en huit jours qui vont venir d'ici la semaine prochaine. Toi, pour cette dernière partie de saison régulière, je me souviens l'année passée, ça parlait pas mal de ah, est-ce qu'il faut finir premier, est-ce que la place est importante. Et puis on avait différents discours. Il y en a qui disaient il faut finir le plus haut possible, d'autres qui disaient ah, l'important c'est vraiment notre jeu, et puis la place elle est pas si importante que ça, on regarde pas trop le classement. Toi, tu fixes un peu des objectifs d'équipe pour cette fin de saison, est-ce que c'est important de quoi d'avoir au moins l'avantage de la glace en quart de finale, même plus haut, ou c'est pas déterminant?
Toujours quand tu commences un championnat, tu essaies d'être le plus haut possible à la fin de la saison, enfin avant les playoffs. Et puis, ouais, nous, je pense qu'on veut être en top 6, c'est sûr. Comme ça, on n'a pas besoin de faire les pré-playoffs. Puis après, ouais, on essaie de finir le plus haut possible. On va pas se mettre des buts comme ça, mais enfin, on sait tous que, ouais, on veut être le plus haut possible.
Ouais, je trouve que Fribourg n'est pas vraiment dans une position où il peut commencer à se demander est-ce que l'objectif ne serait pas l'avantage de la glace. Là, il y a quand même encore Zug derrière, il y a des équipes, c'est un peu ce top 6 là. C'est quand même différent des deux dernières années où Fribourg était dans le top 3 depuis longtemps, puis on sentait qu'à moins d'un accident, ils allaient finir dans le top 6. Là, il y a quand même d'autres priorités, non ?
Non, évidemment, et c'est clair que l'équipe veut gagner, et si elle gagne, elle va gagner des places aussi au classement. C'était plus dans la gestion, puisque tu parlais d'une certaine montée en puissance, peut-être que voilà, ça passe aussi dans la façon de gérer aussi l'effectif, pas arriver cramé en play-off, gérer les temps de jeu, ce genre de choses. Alors ça, on peut le faire peut-être quand on a un peu plus de marge que Gautheron, mais c'est aussi des aspects importants. On voit les grandes équipes... qui ont l'habitude de gagner, ont la possibilité, elles font régulièrement en fin de saison régulière.
Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch.
Je vous propose de passer au deuxième thème, donc autour d'Andrei Bykov. On en a beaucoup parlé cette semaine. Les auditrices et les auditeurs de ce podcast savent tout, je pense, d'Andrei Bykov. Je ne vais pas faire tout le résumé, mais en gros, voilà, après ses déclarations dans la liberté, le jour du match mardi contre Ajoie, eh ben, il y a eu un très bel élan de solidarité.
On te lit, François ?
Un petit peu, pas que moi, mais en tout cas, ça a fait réagir. Et voilà, les gens ne sont pas insensibles à la situation d'Andrei Bykov, qui donc a bientôt 35 ans, espère avoir un contrat pour la prochaine saison. Sandro, ces joueurs en fin de contrat, ça arrive chaque année. Il y en a qui sont là, il y en a qui signent très vite, d'autres plus tard. Déjà, en dehors du cas Andrei, on va revenir sur lui plus précisément. Quel impact ça a dans le vestiaire ? Est-ce que vous en parlez beaucoup entre vous, seulement avec vos copains ? Est-ce que c'est quelque chose de très personnel, privé, et personne ne parle des contrats ? Comment ça se passe un petit peu ces situations où il y a de l'incertitude?
Je pense qu'il y a chaque personnage, chaque joueur qui gère ça autrement. Il y a des joueurs qui aiment parler de ça, enfin qui parlent aux copains, qui parlent un peu ce qui se passe un peu dans le moment. Après, il y a des joueurs qui disent vraiment rien. Et puis, Ouais, moi je suis pas trop fan de vraiment demander à chaque fois un joueur qui a pas de contrat, ouais, tu fais quoi l'année prochaine, blablabla, bla, bla, parce que je pense qu'il a quand même, il a déjà assez de gens qui lui demandent ça, et puis t'as pas besoin d'encore de lui dire ça dans le vestiaire, parce que je pense que pour ces joueurs aussi, c'est pas facile, c'est pas évident, et puis il faut, ouais, il faut leur laisser ce temps dans le vestiaire, parce que je pense que c'est quand même le temps où ils peuvent pas trop penser à ça, et puis jouer au hockey, et puis... Je trouve que, ouais, moi j'essaye de gérer ça comme ça.
Sur le cas Bykov, tu as vécu comment un peu ces deux dernières minutes? Alors j'imagine que tu étais dans ton match, tu t'es moins laissé immerger par le moment que Andrei qui était directement concerné, mais vous l'avez aussi senti sur la glace, et puis on vous a vu aussi après coup être proche de lui, taper la canne par terre quand il allait devant le public. C'était un beau moment aussi pour toi.
Oui, c'est sûr. Je pense qu'Andrei, c'est une personne qui m'a toujours respecté, qui m'a toujours traité très bien, et puis qui était vraiment gentil avec moi depuis le moment où je suis venu jusqu'à maintenant. Et puis, c'est clair que des personnes comme ça, ça touche encore plus, parce que ouais, t'es quand même proche à ces gens. Et puis, c'est aussi un idole à moi quand j'étais jeune. J'ai des photos avec lui quand j'avais 5, 6, 7 ans. C'est... Ça le fait spécial de jouer comme ça avec lui. Et puis, c'est clair que toi, t'espères aussi que ça va bien finir. Ouais.
Tu sais ce qui t'attend le jour où t'auras 35 ans et puis qu'on saura pas si tu vas rester. T'auras droit à ta banderole. Et puis,
Non, c'est ça. C'est trop loin encore à penser à ça.
Mais c'est quand même assez rare. Hein. On réfléchissait. Je crois qu'il y avait eu une fois des feuilles avec le numéro de Motet qui avait été brandi par les supporters. Il était aussi en discussion pour prolonger. Et puis quelque chose en lien avec Romain Le Foll, je crois, quand il y avait eu l'échange à Genève, ouais. Sauf erreur, mais là, il faudrait que je recherche dans les archives. Mais les supporters comme ça qui prennent position par rapport à une situation personnelle, ça arrive pas si souvent. Quelle relation vous avez avec les fans et qu'est-ce que ça représente ça pour vous? Ils ont quand même une influence, ils ont un poids dans ce club et dans ces décisions, tu crois? Ça joue un rôle?
C'est dur à dire. C'est clair que comme joueur, tu veux toujours jouer devant des fans qui sont là tous les soirs. Que comme ici, l'arena elle est pleine presque à chaque match ou à chaque match. Et puis c'est clair que dans ce rôle, là ça joue un rôle parce que tu veux jouer dans des stades comme ça. C'est clair. Mais après moi, j'ai jamais été dans une situation comme ça, donc je peux pas vous dire si Andrei. Ouais, je pense qu'André, il veut déjà rester, même si les fans, ils n'ont pas fait ça. Mais c'est clair que pour lui, ça le touche et puis ça lui fait peut-être penser encore plus à ça. Mais moi, je ne peux pas vous dire si ça met un poids au club ou aux joueurs. Je ne sais pas.
Ouais, Pierre, tu penses que ça peut aider dans le dossier?
À Fribourg plus qu'ailleurs, j'ai l'impression que ce genre d'initiative, voilà, ça a quand même un poids, même si voilà, Christian Dubé l'a dit, je ne vais absolument pas me focaliser là-dessus pour prendre ma décision. Alors, il l'a dit en d'autres termes. Mais quand même, si on se met à sa place au moment de prendre sa décision, si on sait qu'il y a eu toute une patinoire qui s'est mobilisée pour un joueur... Ou alors, pour un autre joueur, il n'y a absolument rien eu. Enfin, on peut penser, prendre la comparaison de Jordan Bougro l'année passée, qui est parti voilà, dans l'anonymat le plus total. C'est beaucoup plus facile finalement de dire à un joueur comme ça qu'on ne va pas le garder. Et là, il y a quand même, un passé différent. Et puis, il y a tout ce que Andrei représente aussi pour le club. Quelle part ça peut avoir finalement dans la décision que Christian Dubé va prendre? Difficile à dire, mais ça le laisse pas insensible. Toi qui lui as parlé directement après le match, t'as senti quoi à Christian Dubé donc?
Pas senti beaucoup de sensibilité sur le moment, dans le sens où
il cache bien ses sentiments.
C'était à chaud après le match et puis on connaît quand même Christian Dubé. Il veut en tout cas pas montrer qu'il va se laisser influencer par ce genre de d'événements ou de soutien public, mais après ça doit forcément le faire réfléchir. La question, faut-il prolonger Andrei Bykov? Je vais pas te la poser aussi directement, mais peut-être dis-nous un peu ce qu'il amène sur la glace et pourquoi il est intéressant comme joueur de Gauthieron cette année et peut-être encore une année ou deux, qui sait s'il restera, mais quel genre de joueur? Alors, et bien sûr son expérience, je pense, qui est importante pour les plus jeunes aussi et le vécu ici.
Oui, tu l'as dit bien, son expérience, c'est sûr que c'est déjà un point. Après, moi, je trouve que, ouais, même s'il n'a pas marqué pendant je ne sais pas combien de temps maintenant, ça fait un moment, mais
9 mois.
Il amène vraiment, il donne son cœur à cette équipe, à ce club. Chaque match, il donne tout, chaque shift qu'il reçoit, il ne se plaint pas. Il n'est pas dans une situation facile maintenant, ces dernières années où il a dû changer sur l'aile et puis il n'a plus cette rôle qu'il avait avant, mais il a accepté ça, il donne tout à chaque match. Et puis je pense que tu ne peux pas avoir un joueur mieux dans ton équipe qu'un joueur comme ça, qui se donne à fond chaque jour et puis aussi aux entraînements. Et puis ça c'est ce que moi je peux dire de lui comme ça. Et puis après, comme j'ai dit avant, comme personnage, c'est un gars très très correct. Qui aide beaucoup les joueurs à se sentir bien dans le vestiaire aussi. Et puis, même dans la vie, avec les étrangers, si tu as un truc à lui demander, c'est quoi faire à Fribourg, c'est toujours tout le monde va demander à lui, parce que lui, il vit pour ce club, il vit pour cette ville. Et puis, c'est tout ce que je peux dire, moi.
Il a quel poids, quel rôle dans le vestiaire? Alors là, tu parlais de ce qu'il apportait sur la glace, qu'il était positif en toutes circonstances, mais est-ce que c'est aussi toujours, malgré qu'il n'ait plus le statut, un leader dans le vestiaire?
Ouais, c'est un très très grand leader, je dirais, même si c'est pas le joueur qui se lève pendant les pauses et puis qui dit quelque chose. Il faut pas toujours être comme ça pour être un leader. Je pense que lui, juste comment il est et puis le personnage qu'il a, c'est une personne très très importante pour notre équipe. Puis moi, je considère ça comme leader, ouais.
Bon, on a compris, Sandro. La réponse est plutôt oui. Même un grand oui, faut-il prolonger Andrei Bykov. Pour toi, Pierre, toi, tu as versé une petite larme quand même mardi en entendant.
Pas de larmes, pas de larmes, mais c'était un joli moment. Je pense qu'on peut aussi tirer un coup de chapeau aux spectateurs qui ont pris cette initiative, parce que voilà, c'est aussi pour ça qu'on va dans des patinoires, c'est pour avoir ce genre d'émotion. Je comprends aussi l'approche de Christian Dubé d'attendre, sachant que c'est plus un joueur majeur de son effectif, et puis qu'il va plutôt attendre de voir comment le font.
Mais il attend quoi alors, en fait, justement, c'est ça? Parce que moi, je me demande si ça vaut la peine d'attendre. Parce que je trouve que les gros joueurs, on veut les signer tout de suite, même avant la saison. On leur propose des contrats longue durée. Des fois, c'est compliqué de savoir combien on donne, quelle durée, quelle partie de l'enveloppe on va donner à tel joueur et tout. Bykov, ça paraît plus clair, son rôle et ce qu'il peut encore apporter à cette équipe. Et la durée, ça sera peut-être une année de contrat et on ne va pas partir beaucoup plus loin. Donc, c'est peut-être plus simple de se décider. Toi, tu dis, tu comprends qu'il attend. Il attend quoi?
Il attend un petit peu de voir s'il va engager un autre joueur suisse, comme je peux imaginer, un autre attaquant. Après, la question est, qui tu peux engager avec le budget que tu peux réserver à Andrei Bykov? Là, il a eu une grosse diminution de salaire la dernière fois. On peut imaginer que là, ce sera encore le cas. Donc, avec 120, 130 000 francs, j'invente ce chiffre, j'en sais rien. Mais qui c'est que tu peux avoir sur le marché qui est aussi polyvalent que Bykov, qui finalement peut rendre des services aussi dans les trois premières lignes s'il a besoin? On a vu qu'il l'a fait en début de saison, alors sans forcément mettre des points. C'est aussi un joueur qui n'est plus tellement blessé. En tout cas, ces deux, trois dernières saisons, il n'a pas eu trop de soucis. Là, je l'ai dit de tête, je ne suis pas retourné voir. Puis il se développe, il s'épanouit bien dans son rôle à 4 contre 5. Donc la question, c'est est-ce que tu peux avoir un profil plus jeune, meilleur, pour le même prix? Ça, c'est une question que Christian Dubé se pose certainement. Il a peut-être déjà la réponse. Moi, si je devais donner un peu mon ressentiment, j'ai l'impression qu'il va obtenir encore un contrat d'une saison. Je n'ai pas d'infos là-dessus, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Puis après, il y a aussi toute cette dimension affective autour d'Andrei Bykov. Et c'est un peu le cas pour d'autres joueurs dans la Ligue. Est-ce que finalement, pour un joueur qui a rendu de grands services à une équipe, il mérite un autre traitement la manière de traiter son futur? On parle quand même du deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club, du quatrième meilleur compteur. Donc ça qui me dérange un peu, c'est qu'il n'y a pas eu quand même j'ai l'impression, de discours clair à son encontre. On lui a dit écoute, c'est la situation, c'est ça, ce poste là on peut te le réserver, mais on attend de voir, enfin qu'il était un peu laissé dans le flou. Toi, t'en penses quoi?
Je te rejoins assez. Après, plus que le côté méritant ou retour sur tout ce qu'il a donné au club, sur la clarté du message, je suis d'accord avec toi, ça devrait être sans doute un peu plus... un peu mieux fait de la part du club, enfin être tout de suite dire voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on peut te proposer, et puis prendre une décision surtout, parce que faire traîner, je pense que c'est pas très bon ni pour Bikoff ni pour l'équipe. Après, le point très important, et Sandro l'a mentionné, je pense que le gros avantage qu'il a, Andrei, c'est que il a, pour avoir discuté avec lui lundi et mardi avant et après cette action, voilà, il aime ce club et je ne veux pas dire qu'il jouera gratuitement pour Gautheron, mais il veut rester, il aime Fribourg, il a toujours joué ici, il rêve de finir ici. Donc je pense que cette dimension affective d'être prêt à mouiller le maillot pour le club, alors oui, il y a peut-être un jeune qui représente un peu plus l'avenir, peut-être qu'il y a un bon joueur, mais ce côté attachement au club, il n'y a aucun autre joueur qui l'aura sur le marché. En tout cas, il y en a d'autres dans l'équipe de Gautheron déjà, mais qui sont prêts à s'investir comme lui pour le club. Je pense que ça, c'est un point qu'il faut aussi prendre en compte dans la discussion.
Et rappeler aussi qu'il y a un peu un passif quand même en question du Dubé, André Bikoff, c'est pas l'amour fou. On se rappelle qu'il y a 2 ans, quand il y avait eu la prolongation, qui avait aussi traîné, prolongation de 2 saisons, après que voilà, Slava, son père, avait critiqué publiquement un peu la manière de faire de prolonger. Ça avait évidemment pas plu à Christian Dubé, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui rentre en compte dans les négociations. Mais moi, je suis prêt à prendre le pari qu'il sera encore là la saison prochaine.
Très bien, et puisqu'on parle d'avenir, ce podcast est très bien construit, on va parler d'avenir encore plus lointain, se poser un peu la question de quelles sont les pièces maîtresses de Gautheron. On parle beaucoup des anciens et de l'âge qui augmente dans cette équipe. Ben, on a la chance d'avoir le plus jeune de l'effectif, Sandro, qui est là avec nous pour ce podcast. Et voilà, finalement, est-ce que Gautheron doit construire autour de Sandro Schmitt? Sandro, tu as signé un contrat, tu as prolongé de 2 ans ton contrat. Voilà, déjà, c'était au mois d'octobre, je crois que ça a été officialisé, enfin en début de saison, ou même septembre. Je ne sais plus.
Je ne me rappelle plus.
J'ai regardé. Bon, y a des très longs contrats maintenant qui signent dans le hockey suisse. Explique-nous un peu comment toi, tu as réfléchi par rapport à cette durée de contrat. 2 ans, ça te permet quoi, de prendre encore un peu une autre dimension, de t'établir dans la ligue, ou tu veux te laisser différentes options pour après, où il y avait possibilité de signer plus long?
Je pense que Christian et moi, on a un peu pensé la même chose. Lui aussi, il m'a pas vraiment proposé. Enfin, ouais, il m'a pas vraiment proposé un contrat de long terme. Il a dit pas plus que 3 ans. Moi, j'ai dit j'aimerais bien 2 ans, parce que je trouve que comme tu l'as dit, j'aimerais bien m'établir encore un peu plus dans cette ligue, de m'améliorer encore. Et puis j'ai pensé aussi quand ce contrat il sera fini, j'aurai 25 ans. Et puis à 24 ans, il y aura des nouveaux, des discussions de nouveau. J'aurai 24 ans, c'est assez jeune encore, je trouve. Et puis, il y a toutes les portes qui restent ouvertes. Je pense que ça serait faux pour moi, aussi pour le club, de signer un joueur autant jeune d'un long terme.
Il y a une tendance avec les joueurs fribourgeois qui commencent leur carrière à Gautheron, c'est qu'ils la finissent généralement avec quelques accidents en route. Toi, est-ce que tu peux aussi t'imaginer faire toute une carrière ici, ou tu es plutôt du genre à te dire qu'une fois une aventure de l'autre côté de la Sarine, ou même dans un autre pays, ça pourrait aussi te convenir?
J'ai 22 ans, pour moi c'est très très dur à dire je finis ma carrière à Fribourg, parce que il reste plus que 10 ans de carrière d'un joueur de hockey, et puis tu sais jamais ce qui va se passer. Après, moi j'étais toujours le gars qui aimait bien les aventures, qui aimait bien voir quelque chose de différent, c'est pour ça que je suis allé en Suède pendant 3 ans. Je peux pas vous dire que je reste là toute ma carrière, mais je dis pas non plus, tu sais jamais ce qui se passe, comme j'ai dit. Et puis mais dans ce moment-là où je suis dans ma carrière, je dirais pas non à avoir quelque chose de différent aussi.
C'est vrai qu'on te sent aussi un peu plus aventurier que peut-être d'autres qui apprécient le cocon fribourgeois, mais on pourrait s'imaginer, en tout cas moi je pourrais t'imaginer une fois aller ailleurs, pas parler en ton nom, mais comme ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que
exactement. Moi je me verrais aussi une fois dans une autre équipe, peut-être. Tu sais jamais, où ou quand, comment, mais ça reste une possibilité. Et puis je garde cette porte ouverte.
Mais quand même en Suisse, ou toi par exemple qui as été quelques années en Suède durant tes années junior, il y a très très peu de Suisses. Je ne sais même pas combien il y en a qui ont tenté leur...
Ouais, il y a Marcel Yanni, Martin Plus, dont on se souvient,
notamment,
mais il y a très peu
en Suède, mais il y a des endroits autres que la Suisse qui pourraient t'intéresser. Alors tu disais la NHL, c'est un rêve plus qu'un objectif. Est-ce que ça reste dans un coin de la tête encore, ou ça s'éloigne vraiment pour toi, et est-ce que tu as des envies un peu plus exotiques, si on peut dire que la Suède c'est exotique pour le hockey?
J'essaie de tout donner tous les jours pour m'améliorer, et puis on verra où ça va m'amener. C'est clair que chaque jeune joueur de hockey, il rêve ou il aimerait jouer en NHL. Je pense que si ça, c'est pas ton rêve, ouais, ça sert à rien à jouer, parce que tu veux jouer le plus haut possible. Et puis, ouais, si un jour la chance, elle va être là, quelqu'un va me donner une chance, je pense que je réfléchis pas trop, puis je le ferai. Mais ouais, comme tu l'as dit, la Suède, ça reste une possibilité aussi. Mais je dirais pas non si ça me convient où c'est. Et puis avec tous les... Ouais, il y a quand même plein d'aspects qui doivent être bien pour que je puisse faire ça. Mais comme je l'ai dit avant, je garde toutes les portes ouvertes. Je suis jeune encore, et puis ma carrière, elle va durer un moment encore.
Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec des organisations d'Amérique du Nord? Alors, peut-être à l'époque, c'était pour question de draft. Est-ce que ça avait été un petit peu... alors, tu ne l'as pas été, mais est-ce qu'il y avait des discussions là autour? Ou bien peut-être pour une invitation dans un camp d'entraînement durant l'été?
Non, je n'ai jamais eu de contact encore, okay. Pas du tout.
La question, c'était, Gauthieron, doit-il construire autour de Sandro Schmid? Bon, évidemment, Gauthieron construit autour de Christophe Berchir. Ça, c'est vu la durée du contrat, ça paraît assez clair que ça sera le futur leader de cette équipe, ou emblème même après la retraite de Sprunger. Tu vois comment ton rôle, alors on ne va pas parler dans 10 ans puisqu'on ne sait pas où tu seras, mais dans ces prochaines années, les étrangers souvent sont quand même là pour, comme centre de première, deuxième ligne. Toi, tu es quand même avant tout un centre. Est-ce que tu peux ou tu veux être centre de deuxième ligne clairement? Est-ce que tu te contentes de troisième ligne? Quelle est un peu la place que tu peux imaginer à Gauthieron dans 2024-25 par exemple, quand tu arriveras à la dernière année de ton contrat?
Je pense pas que je me contente d'être centre de troisième ligne, c'est pas mon but. Enfin, après, ça dépend, troisième ligne. Comme vous l'avez dit avant, les trois premières lignes peuvent être des premières lignes, mais c'est clair que tu veux jouer le plus possible. Et puis en ce moment-là, je pense que pour mon âge, pour mon rôle dans l'équipe, pour tous les joueurs qu'on a, j'ai quand même j'ai beaucoup de temps de glace. Puis j'essaye que je peux augmenter ça encore le plus possible. C'est clair que j'aimerais bien dans les prochaines années aussi peut-être être sur la glace sur les deux dernières minutes si il faut vraiment absolument marquer un goal, d'être un peu plus un leader offensif aussi. Je pense que maintenant je suis assez il sait ce que de quoi je suis capable de faire aussi en zone défensive. Et puis je pense que mon objectif, c'est plus encore un peu la production offensive.
On t'a vu évoluer à l'aile ces derniers matchs. Là, tu retourneras au centre contre Bienne avec Berti et Sprunger à tes côtés. Nous, on l'a souvent dit à ce micro, je suis un fervent défenseur de Sandro Schmid au centre. Je crois que d'autres sont aussi de cet avis. Toi, je comprends bien que tu vas où il y a de la place, tu préfères évoluer à l'aile d'une ligne très offensive plutôt qu'au centre de la quatrième où tu as moins de temps de jeu. Mais au fond de toi, quand même, est-ce que tu préfères pas, est-ce que c'est pas quand même ton poste naturel, centre, et c'est là où tu...
Si, à 100%.
Ouais. Tu le sens aussi dans ton jeu? Est-ce que tu te sens toujours 100% à l'aise quand t'es sur l'aile?
Non, mais mon papa, il me le dit à la maison. Non, moi, j'ai l'impression que j'essaie de faire le mieux possible sur chaque position, mais il y a vraiment plein de gens qui me disent que je suis beaucoup plus fort au centre. Je crois qu'aussi une fois, Christian, il avait dit à quelqu'un, il ne m'avait pas dit directement, mais il avait dit que Ouais, je vais mettre Sandro au centre parce que je vois qu'il n'est pas très confortable maintenant à l'aile. Et puis, moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. J'essaie de tout donner. Et puis, j'essaie de. Ouais, c'est clair que c'est un peu un différent jeu parce que, comme ailier, surtout si je joue avec Dernier, typiquement, que j'ai joué ces derniers matchs, ouais, on a un peu, je ne dirais pas le même style comme centre, mais on pense un peu la même chose des fois dans des situations. Et puis, comme elle, tu. Des fois, c'est mieux d'un peu moins penser et puis de juste aller et puis aller fort-checker et puis essayer de gagner ses pucks. Comme centre, peut-être, moi, j'ai un peu plus le mindset que la défense, ça compte beaucoup aussi. Et puis, c'est clair que tu joues un peu différemment, mais moi, je n'ai pas l'impression que je suis forcément moins bon à l'aile.
Ouais. Alors, je ne dirais pas que tu n'es pas bon à l'aile, comme tu disais, mais enfin, comme tu l'as sous-entendu, je sais pas, mais c'est plutôt que tu es vraiment. On sent que tu es plus dans ton élément quand tu es au centre. C'est quoi qui te plaît en fait vraiment de jouer au centre?
Ouais, je dis toujours que comme centre, tu es vraiment intégré dans le jeu, dans le sens que tu as beaucoup de puck pour toi, tu as beaucoup. Ouais, tu sens que tu es plus facilement dans le match. Puis comme ailier, il y a des shifts, tu touches pas un puck, tu cours après le puck, tu essaies de mettre à la bonne position, que le défenseur il peut te faire une passe en zone défensive, mais il y a direct le défenseur qui est sur toi. Comme centre, tu as un peu plus de place au milieu. Ouais, tu as un peu plus le jeu devant toi. Comme ailier, des fois, j'ai l'impression d'être un peu coincé. Mais je pense que ouais, c'est peut-être vraiment parce que je suis le centre, quoi. Parce que ouais, peut-être un gars qui est ailier, il sait comment gérer ça. Puis moi, je suis encore un peu en train de trouver comment. Comment être plus dans le jeu comme ailier.
Un peu coincé comme ailier aussi, un peu coincé dans la ligne de centre de Gauthieron, parce qu'au début de la saison, on se disait, bon, avec Delarose, Valzer qui a signé à long terme, encore David Dernier qui est là, bah, il ne reste plus qu'une place pour Sandro Schmid. Puis après, il y a encore Rask qui est arrivé. Donc, il y a du monde au centre. Et quand je disais deuxième ou troisième ligne, parce que je mettais Dernier devant par rapport à... Voilà, au passé, au lien entre Dubé et Dernier, son rôle dans l'équipe, quoi, finalement, où c'est un peu le centre de la première ligne. Toi, voilà, t'as quand même l'impression d'avoir maintenant une place assez claire et définie à Gauthieron. C'est quand même, alors, t'es peut-être polyvalent, du coup, Dubé tente plus facilement de te mettre à l'aile que Rask, mais t'aimerais quand même aussi à l'avenir avoir un rôle clair et puis t'imposer comme centre. Au point qu'ils te disent non, c'est pas possible de mettre Sandro Schmid à l'aile, je le laisse au centre, absolument, il apporte beaucoup.
Oui, comme je l'ai dit, j'aime mieux jouer au centre, j'aime mieux, je me sens plus confortable, mais ouais, je pense que Dubé, il a déjà fait cette saison-ci qu'il a mis Delarose à l'aile avec moi, et puis ça montre quand même qu'il m'aime aussi comme centre, et puis j'espère qu'il pour l'avenir, il réfléchit, non, je ne sais pas comment dire ça, pour l'avenir, qui sait que ouais, je suis confortable au centre et puis qui sait aussi que je suis polyvalent, que je pense que c'est plus facile comme jeune joueur aussi à rentrer dans la ligue, comme j'ai fait maintenant ces dernières années, si tu peux jouer à l'aile aussi. Mais ouais, j'essaie de, comme toi tu l'as dit, François, de rester, de lui pas donner le choix qu'il me joue au centre.
Quand même, quelque chose qu'il faut dire, c'est que voilà, les performances de Sandro pour son âge, elles sont, ce qu'on peut dire, exceptionnelles. Si on regarde un peu des joueurs qui se sont affirmés au centre, Enzo Corvi, ou bien, qu'est-ce que j'ai regardé encore, un joueur dominant, Gaëtan Haas, à ton âge, ils faisaient des saisons à quelques points, ils n'avaient pas un rôle dominant. Donc, tu as quand même commencé très vite. Donc on s'attend aussi à ce que tu franchisses les paliers vu que tu as commencé assez haut. Toi, comment tu vis aussi un peu avec cette sorte de, quand même de pression, parce qu'à 22 ans, on attend déjà passablement de choses de Sandro Schmid et tu n'as que 22 ans.
Ouais, je pense que les attentes de moi-même, ils sont encore plus hauts, parce que moi, je trouve que ouais, j'ai encore plein de choses à améliorer. Je peux encore devenir un joueur beaucoup plus fort. Et puis, ouais, les objectifs, comment j'ai dit... J'aimerais être un peu plus productif en offense aussi, peut-être. Ouais, j'étais un peu malchanceux cette saison sur quelques, quelques chances que j'ai pas marquées, mais après, c'est clair que tu veux toujours, comme attaquant spécifiquement, tu veux toujours marquer le plus possible ou faire le plus de points possible, mais j'aimerais quand même pas oublier aussi que le jeu défensif et puis le jeu d'équipe, ça compte beaucoup aussi. Mais comme je l'ai dit, j'aimerais garder tout ça, mais encore un peu marquer plus peut-être.
Justement, en regardant les chiffres sur la projection de fin de saison, tu es un tout petit peu en dessous au niveau des points, les engagements, voilà, aussi un 2 pourcentage de moins que la saison dernière, les minutes de jeu, je regardais, tout le monde joue un peu moins, toi c'est vraiment minime, c'est une quarantaine de secondes par match en moins en moyenne. Dans le ressenti ou dans la façon d'analyser tes matchs, parce que voilà, j'imagine que tu regardes la vidéo, tu regardes des séquences précises de jeu, toi tu sens que tu es dans la continuité, que c'est la même saison que la dernière ou tu te sens mieux dans l'équipe et bien, ton jeu bien en place ou tu trouves que c'est une petite baisse de régime? Comment tu trouves de manière globale ton jeu?
Je pense que vu que j'ai vraiment progressé assez vite et puis assez beaucoup les deux, trois premières saisons, maintenant, peut-être c'est une saison qui stagne un peu. Enfin, je ne dirais pas qu'il stagne parce que je pense que j'apprends tous les jours encore des trucs et puis j'essaie d'être plus constant dans mon jeu. Mais si on regarde les points, je suis un peu en dessous, comme toi tu dis, avec tout. Mais l'année passée, il ne faut pas oublier que j'ai joué avec un Di Domenico qui fait vraiment beaucoup de points. Et puis des fois, les points,
c'est toujours tout seul.
Si vous
allez lui faire la passe en zone défensive, puis après.
Forcément ça, mais si tu joues avec un joueur comme ça, si ça lui va bien, à toi aussi, typiquement, normalement, ça vient tout seul aussi avec les points des fois. Puis c'est toujours un truc avec marquer des buts, faire des assists, c'est vraiment des trucs. T'as des matchs, enfin, t'as des phases dans une saison où ça va vraiment bien, après, t'as des phases où il n'y a pas de points, même si tu joues, t'as l'impression que tu joues bien. Et puis. Moi, j'essaie de ne pas être frustré si je ne fais pas de points ou si je ne marque pas des buts parce que, il faut quand même regarder tout. Et puis en tout, je trouve que jusqu'à maintenant, je fais une saison assez, assez bien. Et puis, j'espère que le meilleur, il est encore devant moi.
Vous aviez un jeu assez particulier avec Di Domenico dans le sens où toi, tu étais vraiment le centre jusqu'au milieu de la glace. Puis presque lui, après, c'était lui quand même le meneur en zone offensive. C'était un petit peu un mix qui te convenait bien, qui convenait bien à ton jeu?
Oui, peut-être. Ouais. C'est dur à dire, mais oui, c'est possible. Mais après, je pense que pour mon développement, peut-être que ce n'était pas le meilleur parce que lui, il avait le puck beaucoup quand même. Et puis moi, j'essaie de m'améliorer avec le puck aussi, comme j'ai dit, en zone offensive. Et puis, si tu joues avec un joueur comme ça, c'est presque comme si tu lui donnes le puck et puis tu attends qu'il revienne. Et puis maintenant, c'est un peu... j'essaie de... Je ne dis pas que je peux prendre le rôle à Di Domenico, mais d'essayer un peu plus de jouer un style comme ça, comme lui fait.
Pour conclure ce podcast, on va parler un peu de ton début de carrière quand même. La grande particularité, c'est que tu es parti en Suède. Enfin, c'est de moins en moins une particularité. Il y a beaucoup de jeunes Suisses maintenant qui tentent leur chance en Suède ou qui font quelques années juniors là-bas. Notamment, ça nous permet de poser la question. Première question des auditeurs, j'en ai oublié une avant, mais Gaëtan M85 qui demande que finir tes classes juniors en Suède, est-ce que ça t'a aidé à devenir le joueur que tu es? Et j'ajoute, qu'est-ce que ça t'a apporté ces années en Suède vraiment dans ton jeu?
Oui, à 100% que ça m'a aidé à être le joueur que je suis maintenant. J'ai toujours dit, le championnat U20 en Suisse, c'est dur à le comparer avec celui de Suède parce que je pense que celui de Suède, il est quand même un peu au-dessus. Et puis, ce qui m'a aidé le plus, c'est que j'ai pu jouer avec des joueurs... exceptionnel tous les jours avec une concurrence immense là-bas parce qu'il y a vraiment ils ont le choix ils peuvent choisir les meilleurs joueurs de toute la Suède parce qu'il y a seulement 20 équipes de juniors là-bas et puis il y a je sais pas combien de gamins qui veulent jouer au hockey et puis je dirais que c'est vraiment ça qui m'a aidé le plus, c'est que la concurrence là-bas elle est beaucoup plus haute que celle-là en Suisse.
Ton style de jeu, il a évolué entre le joueur que tu étais plus jeune en Suisse et puis après le joueur que tu étais quand tu es revenu?
Non, je pense que de toute façon, ton style de jeu, il s'évolue dans ces années entre 15 et puis 20 ans. Même après, tu peux encore évoluer. Donc, je ne pense pas que ça a fait une différence que j'ai joué en Suède, que j'ai changé.
Mais disons, cette structure que tu as dans ton jeu, on voit que tu es quelqu'un de consciencieux, à la suédoise presque, si on peut dire, si on voit aussi d'autres joueurs. Tu l'as acquis là-bas? Ou c'est naturel?
Peut-être, j'ai appris ça là-bas, mais ouais, à 17 ans, ouais, peut-être. Parce que quand je suis parti, j'avais 15, 16 ans, et puis à 15 et 16 ans, peut-être, ouais, le hockey, c'est pas encore la même chose. Tu peux pas dire, ouais, en novice, c'est clair qu'il y a des structures aussi, mais c'est pas la même chose. Et puis, ouais, donc peut-être tu peux dire que j'ai appris ça là-bas, parce que, ouais, peut-être si je serais pas parti, j'aurais pas... le même style de jeu.
Tu as parlé de la plus grande concurrence en Suède, du meilleur niveau de jeu. Qu'est-ce qu'il y a encore comme grande différence entre les juniors suédois et les juniors suisses? Les infrastructures, les entraînements, l'encadrement?
Ouais, les infrastructures, c'est un truc. Enfin, ils ont une école juste à côté de la patinoire où j'étais moi, et puis c'est vraiment... ils travaillent ensemble, les deux, l'école et puis le club. Et puis, tu as les entraînements presque tous les matins en Suisse. Tu as les entraînements le soir. Et puis, ouais, même des fois, on avait deux fois par jour l'entraînement parce qu'ils appelaient ça le hockey gymnasium. Et puis, il y avait une dizaine de joueurs qui étaient là-bas dedans et puis qu'ils avaient deux fois l'entraînement par jour, deux ou trois fois par semaine. Et puis, ouais, j'étais dans ce pool aussi et puis j'ai pu faire ça. Mais je pense que ça, c'est clair que c'est une grande différence parce qu'en Suisse, surtout à Fribourg, tu n'as pas trop cette chance de faire une école à côté du sport. Et puis, je pense qu'il y a plein de trucs qui changent quand même. Après aussi, des trucs qui sont assez similaires. C'est dur à dire exactement ce qui est le plus grand truc.
Tu es allé en Suède parce que notamment ta tante habite en Suède. C'était aussi une envie de hockeyeur. Ça faisait longtemps que c'était dans ta tête ou comment c'est venu l'idée d'aller en Suède pour toi?
Oui, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours aimé regarder les Suédois jouer au hockey. Après, c'est sûr que vu que ma tante elle habite là-bas, on a fait les vacances beaucoup là-bas. Enfin, beaucoup, on est allé quelques fois là-bas et puis ça m'a toujours plu. Et puis
ça veut dire que quand tu avais 10 ans, tu lui disais je viendrai une fois jouer au hockey chez toi?
Non, pas du tout. J'ai juste... quand j'étais novice, j'avais l'impression... je ne savais pas trop comment m'améliorer, comment devenir un meilleur joueur parce que j'avais l'impression comme... peut-être à Fribourg aussi qu'ils n'avaient pas trop un plan avec moi à quoi faire. Et puis, un jour, je ne sais pas, je crois que j'ai dit à mon papa « Ouais, j'aimerais aller en Suède. » Et puis, on a regardé les deux ensemble aussi avec ma tante... On a pris contact avec Malmö et puis ouais, je suis très content que ça a fonctionné comme ça.
Parallèlement, tu as aussi participé à deux championnats du monde junior U20. Tu étais notamment capitaine assistant la deuxième fois, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Un rôle que tu as retrouvé assez rapidement à Fribourg jusqu'au C de capitaine dernièrement. On en a parlé au tout début. Mais comme tu peux l'imaginer, on a eu plein de questions là-dessus de nos auditeurs, notamment trois ou quatre, notamment FR Coily 20 qui nous demandait qu'est-ce que ça représente le C de capitaine. Tu en as déjà parlé un peu avant, mais peut-être revenir dessus.
Ouais, c'est une fierté, c'est clair, mais c'est toujours un truc avec ces lettres. Je pense que tu as une lettre sur le maillot, il y a tout le monde qui voit ça, mais mon rôle dans l'équipe, ça change rien, enfin... Je reste comment je suis, je reste le joueur que je suis. J'essaie de... Ouais, je fais mon jeu le plus possible, comme je le fais tous les soirs, peu importe si j'ai un A, C ou rien du tout sur la poitrine.
Prends la parole quand t'es dans le cercle, dans le vestiaire.
Ouais, ça c'est un truc qui change un peu peut-être, mais même au début de saison, quand on avait la Champions League, là j'étais capitaine et puis... Julien, enfin, on avait gagné, puis Julien, il m'avait dit « Ouais, tu continues à faire ça, vu que tu as gagné. » Puis après, on a enchaîné quelques matchs. De suite, on avait gagné, et puis j'ai toujours fait ça. Donc, c'était pas la première fois maintenant dans ces matchs.
Tu dis toujours la même chose? C'est une sorte de cri de guerre ou alors c'est un message qui change?
Non, j'essaie toujours d'un peu regarder contre qui on... Enfin, ouais, je regarde toujours contre qui on joue, et puis d'essayer... Ouais, de dire un peu un truc.
Des gros mots.
Non, mais non, pas du tout. Non, pas un truc contre l'autre équipe, mais un truc peut-être si on joue contre Ajoie. Que c'est différent si on joue contre Zurich, par exemple. Je dis pas la même chose. Ouais.
C'est quelque chose quand même de naturel pour toi d'être un leader, puisqu'on disait que tu as déjà été assistant de l'équipe de Suisse chez les juniors. Ça veut dire que depuis plusieurs années, les coachs voient en toi un relais, un leader, quelqu'un qui peut guider l'équipe. Ça, c'est quelque chose que toi, tu aimes avoir comme position, puis surtout qui est ressenti par les autres, tu penses?
Ouais, on peut dire ça comme ça. Je pense que depuis que j'étais jeune, j'avais toujours un peu ce rôle de ouais, ils m'ont donné ce rôle de coach, mais pour moi, comme j'ai dit avant, pour moi ça change rien. J'essaie de tout donner à chaque match. Puis c'est peut-être aussi à cause de ça que les coachs ils me donnent ça, parce qu'ils voient que ouais, je suis plutôt un travailleur aussi qu'un gars qui ouais. Je sais pas comment dire ça, mais un gars qui travaille fort et puis qui essaie de tout donner à chaque match, et puis ça peut aussi être un truc de leader. C'est pas forcément le gars qui lève la voix à chaque fois dans le vestiaire, mais c'est aussi un gars qui monte l'exemple sur la glace. Et puis ça, c'est un peu ma philosophie dans ce thème-là. Et je pense pas que moi, je suis le gars, surtout pas avec les joueurs qu'on a maintenant, avec je ne sais pas combien de matchs d'NHL, avec je ne sais pas combien de matchs de Ligue nationale là aussi. Ici, ce n'est pas mon job de me lever et puis de leur dire ouais, bougez votre cul, parce qu'ils le savent mieux que moi, je trouve. Et puis, comme j'ai dit, j'essaie de montrer l'exemple sur la glace le plus possible.
C'est vrai que c'est quand même une belle preuve de confiance pour terminer sur ce sujet, parce que je discute avec toi là maintenant et je me dis ah ouais, bah il a été capitaine, Sprunger n'était pas là, c'est normal, capitaine. Mais en fait, on oublie qu'il y a Berchi, qu'il y a des Motet, qu'il y a des Diaz dans l'équipe.
1500 matchs de NHL.
Voilà,
à côté de toi.
Qui pourrait aussi avoir le C quand Dubé dit bah, c'est toi le capitaine ce soir, toi tu. Voilà, alors tu es fier, tu prends ça comme un honneur, mais est-ce que tu penses aux autres aussi? C'est quelque chose dans l'équipe, tu sais que t'es le numéro 2. Enfin, comment ça se décide lequel des assistants va être capitaine?
Ouais, c'est clair que j'ai aussi pensé. Ouais, c'est quand même drôle qu'un gars de 22 ans, il reçoit le C, puis à côté, bah, juste comme toi tu dis, il y a un dernier qui a fait, je sais pas combien de matchs, mais 500. Je pense que c'est 500, ouais. Et puis qui c'est vraiment un gars... Ouais, je pense que lui, ouais, comme j'ai dit, ça ne change pas grand-chose si tu as le C sur la poitrine, parce que typiquement, un dernier, un Diaz, même s'ils ne sont pas capitaines, ils se comportent comme un capitaine aussi. Donc, on peut dire que tout le monde, c'est des capitaines un peu dans l'équipe. Ouais, il y a tout le monde qui a son rôle et puis tout le monde le fait le mieux possible.
Tu dois te forcer pour hausser le ton avec les arbitres. On sait que, voilà, des fois, il faut quand même aller marquer un peu son territoire. C'est naturel chez toi. On sait que t'es quelqu'un d'assez tranquille, mais t'arrives à le faire.
Non, ça, c'est vraiment un truc, je sais pas, qui arrive. Ouais, je suis pas très fan de faire ça. Enfin, je suis pas très confortable. C'est peut-être un des trucs, ouais, que je trouve, enfin. Je ne suis pas très content d'avoir laissé de devoir faire ça. Mais ouais, aussi contre Lausanne, j'ai remarqué que les arbitres, ils étaient un peu... ils ne m'écoutaient pas trop. Donc j'ai dit à Diaz, ouais, vas-y toi, parce que lui, il connaît ses arbitres. Il connaît, ça fait un moment qu'il est dans cette ligue. Et puis, je pense que là, j'ai encore plein de trucs à apprendre.
Avant de clore ce podcast et poser les quelques questions qui nous restent, un petit mot sur la côté. Voilà, tu es hockeyeur professionnel, évidemment, ça te prend beaucoup de temps, mais tu restes pas les bras croisés ou les mains sur la manette de PlayStation l'après-midi. Tu as pas mal de boulot, quoi. Tu fais un stage. Raconte-nous un peu ta semaine, comment ça se passe.
Ouais, exactement. Si on n'a pas match... Les soirs, les après-midi, je vais travailler à Berne chez une assurance pour finir mon stage pour faire le CFC. Les trois dernières années, j'ai fait une école. Enfin, l'année passée, j'ai travaillé aussi, j'ai commencé le stage, mais les années avant, j'ai fait l'école. Puis j'ai presque tout fini. Je dois juste encore finir deux petites épreuves au mois de juin, et puis après j'aurai tout fini, et puis après on verra comment je continue.
Si on veut une assurance ménage, on peut venir vers toi, et puis tu nous règles ça.
Honnêtement, je suis pas très le, je suis pas le vendeur d'assurance, donc je travaille un peu derrière avec tous les statistiques et des trucs comme ça. Donc ouais, si vous voulez une assurance, je peux pas vous, je peux vous dire où aller, mais pas chez moi.
C'est important pour toi d'avoir un papier? C'est quelque chose qui se fait naturellement ou des fois c'est, tu dois te forcer un peu?
Ouais, vu que j'ai fait ces 3 ans en Suède, j'ai pas fait de formation après le CO. Donc pour moi, ouais, je voulais toujours avoir un peu un papier. Et puis ouais, c'est vraiment à cause de ça que je le fais aussi. Et puis après, j'ai commencé le stage et puis toute cette école parce que je voulais faire un papier. Puis maintenant, j'ai remarqué aussi que ça fait quand même du plaisir un peu à faire quelque chose de différent que juste jouer au hockey. Puis ça me donne un peu... ouais, ça me fait penser un peu à autre chose et puis c'est aussi positif.
On va prendre quelques questions pour terminer. Après, on va te laisser filer parce que tu dois notamment aller travailler. Tu me disais que... plus tu allais tard, plus tu finissais tard. Alors, on ne veut pas non plus te saboter
ta soirée.
Il y a une Joya Schmutz qui a posé énormément de questions. On ne sait pas si tu la connais, mais elle te demande, par exemple, si tu préfères parler le français, l'anglais ou le suédois.
Je ne sais pas. L'allemand, c'est sûr que je préfère.
Après, ta langue maternelle.
Oui, exactement. Ouais, je pense que le français, c'est quand même le truc le plus proche aussi parce que j'ai un peu grandi avec ça. Mais vu qu'il y avait Brodin ces 3 dernières années, j'ai parlé énormément avec lui. Et puis, je crois que j'ai même amélioré, j'ai vraiment amélioré mon suédois depuis que je suis revenu. Et puis maintenant aussi avec les 2 suédois. Mais ouais, je pense que numéro 2, ça reste le français quand même.
Tu étais très proche de Brodin. Est-ce que maintenant, il y a un des Suédois, il y a encore Rask, dans le vestiaire avec qui tu discutes plus facilement ou que tu as des bonnes affinités?
Ouais, c'est clair qu'avec Brodin, c'était vraiment un peu... C'est devenu une... on dit comment?
Une amitié.
Une amitié, ouais. Et puis, ouais, avec... Je m'entends très bien avec les 3 Suédois qu'on a maintenant aussi. C'est un peu une relation différente, mais ouais, spécifiquement avec De La Rose, on parle beaucoup aussi des fois, et puis il est déjà venu chez moi aussi, donc ouais, c'est un peu lui qui est un peu le plus proche de moi de tous ces 3.
Tu vas pas encore souper avec sa famille, t'en es pas au même stade qu'avec Brodin.
Non, exactement. Non, c'était juste parce qu'il avait... Il est venu avec son chien une fois parce qu'il avait personne pour le garder.
Il y a une question de Romain Heidegger qui demande si tu préfères remporter un titre avec Berne. Terminer meilleur buteur de l'histoire de Gauthieron sans jamais gagner de titre. Tu as déjà eu des questions similaires l'année passée, mais voilà, peut-être celle-là, tu ne l'as pas eu.
Je pense, premièrement, c'est très, très difficile à finir meilleur buteur de Fribourg parce que Spunger, quand même, encore, qui a fait une énorme carrière. Mais ouais, je pense que dans ce moment où je suis, c'est clair que j'aimerais finir ma carrière plutôt que gagner à Berne.
D'autres questions de Joya Schmutz, notamment en lien avec ton numéro, pourquoi le 73?
C'est l'année de naissance à mon papa.
Bel hommage.
Ouais. Ouais, je voulais toujours le 14 parce que j'avais toujours le 14 avant. Puis après, il y avait Ralf Stalder qui était là la première saison. Et puis, ouais, j'ai choisi le 73. C'était un peu mon deuxième choix. Et puis, depuis là, je l'ai gardé.
Le 0-0 n'est pas possible en hockey. Hein.
Ouais, exactement.
Peut-être 2000.
Ouais.
Il y a des basketteurs quand le 0-0, ouais, mais les hockeyeurs, pas
beaucoup. Pu prendre le 20, mais il était aussi déjà occupé.
Ouais, il y avait Reto.
Reto.
Encore Joya Schmutz qui nous demande si tu aimes aller chez le coiffeur.
Oui et non, enfin ça me dérange pas du tout. C'est juste que ouais, je vais pas beaucoup, je sais pas, c'est un peu un truc que je laisse comme ça. Et après, tout à coup, pendant l'été, je me dis ouais, vas-y, je vais chez le coiffeur, et puis je vais 2 fois par année un peu, et puis je laisse pousser de nouveau. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste comme ça.
Bon, y a une légende qui dit quand même qu'il faut laisser pousser ses cheveux à Gauthieron pour être dans les bons papiers de son entraîneur.
Ah ouais, peut-être. Ouais.
Le jour où il coupe, il y a tout le monde qui coupe, c'est ça.
Ouais. C'est un influenceur.
Et puis elle demande aussi quel est ton joueur préféré. Je pensais, tu avais parlé un peu de Bikoff et Spunger quand tu étais plus jeune, mais maintenant un peu un modèle pour toi.
Maintenant, en ce moment.
Ouais, je sais pas si tu as quelqu'un qui t'inspire ou que tu aimes bien. regarder.
Bah aussi, quand j'étais jeune, il y avait les Blackhawks qui ont beaucoup gagné quand j'avais 10, 11, 12, 13 ans. Puis j'ai toujours énormément aimé Patrick Kane et puis Jonathan Taves. Et puis c'est un peu ces deux gars. Ouais, maintenant ils sont un peu plus vieux aussi. Mais ouais, j'aime bien le style de jeu de Kane et puis ouais, comment il joue.
Mmh. Ouais. Kane que tu as juste raté pour quelques années. Tu aurais pu affronter quand il était à Bienne.
Exactement, mmh. Ouais.
Tu l'avais vu jouer ? Tu étais allé ? Non.
Non, non. Je crois que j'ai vu jouer Austin Matthews une fois quand il était à Zurich, mais je ne suis même pas sûr. Mais là, ouais, non, les autres, je crois que je ne les ai jamais vus.
Très bien, merci beaucoup Sandro Schmidt pour
on va te laisser filer.
Ce temps merci. Accordé. On va te laisser travailler, ouais. Puis nous, on va aussi aller travailler du coup.
Eh oui, la journée n'est pas
après-midi studieuse. Merci beaucoup, bonne suite de saison et à bientôt.
Merci
à
vous.
Ciao, ciao.
Merci.
Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Point de vue avec Gérama. Depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.